Bonsoir à toutes, merci d'être présents ce soir. Alors vous allez le voir, c'est une table ronde un peu atypique, non seulement parce que nos cinq intervenants sont brillants, c'est la première chose, et puis surtout parce qu'il y a quatre invitants ce soir. Alors le premier invitant, c'est la ville de Nantes, qui comme chaque année depuis, je sais plus, 5 ou 6 ans, organise son cycle dédié au développement durable. On avait parlé les années précédentes de changement climatique, on a parlé biodiversité, on a même parlé de régulation l'année dernière. Ça avait éclairci les assemblées, mais c'était quand même passionnant. Et cette année, on discutera, on essaiera de travailler pendant les 3-4 mois qui viennent autour de la ville demain. Ça, c'est le premier invitant. Et puis le deuxième invitant, c'est la démarche Nantes 2030, dont le directeur est présent, je crois, ce soir. Le troisième invitant, c'est bien entendu le Festival des Utopiales qui nous accueille ce soir. Et puis le dernier invitant, c'est Terra Eco, dont je suis le directeur de la rédaction. Et je vais tenter d'animer cette table ronde ce soir. Donc merci à vous tous et merci à nos 5 intervenants d'avoir répondu à nos invitations respectives. Alors ce soir, le sujet qui nous intéresse, c'est en fait presque un match de boxe. C'est une confrontation entre d'un côté ceux qui rêvent et de l'autre ceux qui sont terre à terre. Alors c'est un peu caricatural, vous allez le voir, mais en gros, ceux qui jouent avec les mathématiques, avec la statistique et avec, en gros, la science, et de l'autre, ceux qui n'ont de limite que celle de leur imagination, ceux qui rêvent de la ville de demain, ceux qui dessinent, ceux qui font de la culture, les artistes. Voilà, alors évidemment, vous l'avez compris, la description n'est pas très sympa et pas très honnête, mais en gros, c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors, pour répondre à toutes nos questions, 5 invités, ils ont tous un nom difficile à prononcer, donc je vais essayer. Alain Beuzeville-Val, vous êtes directeur général de la Sémitan, c'est bien prononcé ? Ça va, parfait. Patrick Giguer, il est là-bas, il est le directeur général du Lieu Unique. Il a été, je crois, directeur artistique des Utopiales. Vous êtes chez vous, en gros, hein, c'est ça. Éric Vidalinck, à ma gauche, vous travaillez au service économie et prospective de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et puis Pierre Bordage, vous êtes le président des Utopiales, vous êtes là aussi chez vous. Et puis je terminerai par Luc Skuyten, je vais le prononcer à la belge. Ça va, Skuyten, c'est bon? Vous êtes architecte, et je vais ajouter utopiste. En gros, vous réfléchissez, vous imaginez notre ville de demain et à quoi elle va ressembler. Voilà, donc tous ces gens-là, évidemment, tous nos invités auront la parole ce soir. Je vais passer la parole à Éric Vidalinck parce que, à l'aide de la statistique, à l'aide de la sociologie, à l'aide de la géographie, de la démographie, eh bien, vous dessinez pas simplement la ville de Nantes, mais la ville du futur, les villes du futur. Et vous allez nous donner, en quelques chiffres, en un court exposé, eh bien, en gros, les grandes lignes de ce à quoi ressembleront nos villes demain.
Bonsoir. Donc, je vais essayer effectivement de vous donner quelques éléments de cadrage sur la ville. Sur la ville avec la perspective énergie-climat, puisque en fait, c'est un peu ce dont on s'occupe à l'ADEME. On ne fait pas que ça, on s'occupe aussi de déchets, mais l'idée, c'est vraiment de vous amener des éléments sur ce qui peut être structurant pour l'évolution de la ville à court et moyen terme, donc à l'horizon 2030. Alors, les éléments... Les deux éléments qui sont à prendre en compte pour nous, c'est le fait que on est en train de passer ce qu'on appelle le pic de consommation des énergies fossiles, principalement du pétrole dans un premier temps. Donc ça veut dire qu'on va passer par un maximum de production et qu'on ne sait pas exactement comment on va répondre à la demande qui, elle, continue à croître à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis sur la gauche. En fait, c'est des données de l'Agence internationale de l'énergie qui, pour la première fois en 2008, a fait apparaître une petite barre bleu clair en disant ça, c'est ce qui reste à découvrir pour répondre à la demande. Donc vous voyez, ce qui reste à découvrir, c'est absolument considérable. On ne sait pas où on va le trouver. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir faire face à ce défi-là à un horizon qui est très proche. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu climatique, où on sait qu'on est déjà à des niveaux qui sont bien au-delà de ce que la biosphère est capable de recycler en termes d'émissions de carbone. Donc à l'échelle mondiale, il nous faut diviser par deux. C'est ce que vous avez sur la droite ici. Les tendances, elles sont évidemment, elles suivent la consommation d'énergie, puisque la principale source d'émissions de CO2, c'est l'énergie. Et on voit que cet effort de réduction de division par deux, il fait appel à beaucoup de technologies que l'on a assez peu aujourd'hui. C'est de la capture et du stockage du carbone, beaucoup de renouvelables, du nucléaire en partie, pour l'Agence internationale de l'énergie, hein, et beaucoup d'efficacité énergétique. Donc tout ça, c'est les éléments structurants qui conditionnent tout ce que moi je vais vous dire derrière, parce que c'est notre approche et peut-être qu'après on dévira un petit peu de ces questions énergie et climatique, mais en tout cas pour nous c'est vraiment structurant. Ça, c'est le constat à l'échelle mondiale aujourd'hui. Les villes, c'est 50% de la population et c'est 2/3 de la consommation d'énergie. Et donc les mêmes ordres de grandeur en termes de gaz à effet de serre, à peu près 2/3. Dans les pays occidentaux, généralement, c'est bien plus. On est à 75-80% de population qui est urbaine déjà. Et donc des émissions de CO2 qui sont aussi supérieures. Donc la ville est en fait un vrai centre de consommation d'énergie. De consommation parce qu'en fait elle produit très peu. Il y a très peu de capacité productive énergétique en ville. Donc c'est vraiment un système, parce que ce qui est intéressant c'est la dimension, on va dire, transversale et pluridisciplinaire de ce système. C'est vraiment un système qui est intéressant par rapport à notre problématique énergie et climat. Donc on voit qu'on a des défis importants à relever, on voit qu'on a des choses qui se passent dans ce périmètre-là. Et a priori, on aurait tendance à dire qu'un des premiers leviers de la ville, ça va être la forme urbaine, justement. Quand on regarde ça, c'est un constat. Ça ne veut pas dire que si demain on fait des villes qui ont cette forme-là, elles vont avoir le même impact. Mais en termes de constat, on voit que le moins durable, c'est en gros la ville états-unienne. On a une ville très étalée, très énergivore. Et puis, on a plus on va vers de la ville verticale, plus on a des consommations énergétiques qui sont réduites au sein de la ville. Donc, on pourrait avoir tendance à penser que si on veut affronter les enjeux énergétiques et climatiques, il faut essayer d'aller vers une ville qui est maîtrisée, compacte et dense.
Et verticale.
Et verticale. Pour partie, c'est pas forcément des tours verticales, parce que une tour c'est ni plus ni moins qu'une impasse verticale. Une tour de 50 étages, il faut y monter en haut. On le fait pas à pied, ça veut dire qu'il faut tout un tas de machinerie, d'ascenseurs, et ça c'est évidemment très énergivore. Sans parler des processus de climatisation et de chauffage qui aussi sont particulièrement énergivores. Mais voilà, j'ai peut-être passé là-dessus parce que sinon ça risque d'être long. Ce que je voulais vous présenter pour avant peut-être de passer la parole aux autres orateurs, c'est on voit que la ville a un rôle central. Par contre, on voit que tout le système énergétique, que ce soit à la fois les éléments de production énergétique ou les éléments de consommation, ont des durées de vie qui sont assez conséquentes. Et donc tout ça, ça nous amènera à penser qu'en fait, à l'horizon 2030, la ville, elle risque d'être très semblable à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ici, vous avez quelques ordres de grandeur. Les bâtiments, en fait, en France, ça fait partie des pays où la durée de vie est la plus longue. On est plutôt à des durées de vie d'un siècle. En Asie, ça peut être beaucoup moins. On a des pays où la durée de vie des bâtiments est plutôt de 30-50 ans. Mais chez nous, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas construire des nouveaux bâtiments. Il s'agit de rénover le parc ancien, si on veut faire une ville plus économe. Si on veut avoir des véhicules plus économes, changer tout un parc de véhicules, 30 millions de véhicules en France, ça prend entre 15 et 20 ans. Voilà, donc tout ça, c'est pour amener des éléments, j'ai peut-être attaqué en étant un peu le rabat-joie de service, mais des éléments qui nous amènent à penser qu'en fait, il y a de l'inertie dans ce système-là et que c'est pas évident, a priori, de faire bouger les choses.
Ok, merci Eric, de dire que, enfin, en gros, rien ne va bouger d'ici 20 ans et que la ville dans laquelle vous vivez, ce sera la même, elle n'aura pas changé de visage. Non, j'exagère. Pierre Bordage, est-ce que c'est pas un peu frustrant de casser comme ça le rêve de celui qui écrit de la science-fiction en disant c'est surtout l'inertie qui va marquer les deux décennies qui viennent?
Je ne veux pas vivre dans une tour. Donc il va falloir songer à des solutions alternatives, parce que ça m'intéresse vraiment pas de vivre dans une tour. Je n'ai pas une réflexion globale sur le devenir des villes. Je me rappelle simplement du bouquin du livre de Simak, Demain les chiens, dont le titre original est City, où il imagine que chacun ayant son petit avion atomique va vivre à la campagne, et donc c'est la disparition des villes, et après ce qui fait la civilisation des chiens. Et je pense qu'il serait urgent, à mon avis, hein, mais maintenant je ne suis pas ni architecte ni urbaniste, de réfléchir au système très ancien de notre monde, de regarder d'autres formes d'habitat et d'essayer de les adapter à nos civilisations. Je parle par exemple du Sthapatya Veda, qui est l'art de l'habitat dans l'Ayurveda, qui est un traité très très ancien et qui explique comment on vit. Ça ressemble un peu au Feng Shui, mais c'est pour l'habitation globale. Et donc je serais plutôt intéressé par ces alternatives-là, parce que j'ai l'impression que vous avez parlé d'impasse. Les tours sont des impasses, j'ai l'impression que nos villes sont des impasses, d'autant qu'on a de plus en plus de monde en ville, des campagnes de plus en plus désertifiées, et je pense qu'il serait temps de réfléchir de façon beaucoup plus globale par rapport à cette espèce d'urbanisation sauvage, enfin sauvage un peu forcenée à mon avis, qui va nécessiter effectivement de plus en plus d'énergie, quoi. Et je me demande si la désagrégation des villes, c'est-à-dire de réoccuper des campagnes, ne serait pas une réponse finalement beaucoup plus intéressante, parce que peut-être qu'il est plus facile, quand on est dans des habitats comme ça dispersés, de produire son énergie, même s'il y a d'autres problèmes qui se posent, quoi. Je pense qu'on en va, on essaie d'aller au bout d'une sorte de logique. Alors vous avez parlé des villes américaines, et je pense que c'est l'aboutissement de la logique. J'ai vécu à Kansas City, qui est une ville qui s'étale sur 80 km et où il faut prendre sa voiture pour n'importe quelle course à faire. Et bon, voilà, il y a des réflexions à mener comme ça globalement, mais en essayant de tenir compte de ce qui s'est déjà fait. Parce que par exemple, quand vous allez dans certains pays, si vous avez le climat qui modifie l'habitat, l'habitat s'adapte au climat, notre climat est en train de changer, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et je pense cette vision, j'ai vu qu'il y avait le Grand Paris là, avec Nouvelle et tout un tas d'architectes qui sont essayés là-dedans, et c'est la vision des tours qui de nouveau domine. Et moi, ça me fait un peu peur, les tours, parce que j'ai l'impression que c'est l'expression de l'orgueil humain, finalement, et que finalement les tours finissent par s'effondrer.
Patrick Giger, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, dans la science, je crois que la science-fiction nous a proposé des scénarios en fait vers lesquels on a tendance plutôt à aller. Et l'un de ces scénarios, c'est celui de la mégapole, si on veut, hein, Metropolis par exemple, bien sûr, qui est une cité de strates, qui est très concentrée, au niveau de la verticalité, et où en fait les castes, les classes les plus basses se retrouvent physiquement le plus bas. Et ceux qui sont les plus riches se trouvent vers le soleil. Donc ça, c'est évidemment, si on rassemble quelque part la ville, c'est dans cette direction-là qu'on pourrait aller, ou en tout cas que la science-fiction pourrait le rêver. Mais je crois que Luc Skuyten va aussi me contredire, puisque lui, il a d'autres visions. Maintenant, il y a des auteurs de science-fiction comme par exemple Robert Silverberg avec les menaces urbaines, qui a imaginé des projets comme des tours de très grande hauteur qui libèrent l'espace pour les ressources, justement, entre autres pour la culture. Donc c'est la disparition des villes. Les villes deviennent des grandes tours, en fait, mais qui ne sont pas les HLM, qui sont vraiment, véritablement des lieux de circonférence très importants et de très, très grande hauteur, comme ça, qui permettent de rationaliser. Et je crois que ça, c'est une autre des préoccupations de la science-fiction, et peut-être dans le réel aussi. C'est la cité utopique, c'est la ville rationalisée et assainie. Une ville qui a été construite sur un principe de cadre très précis, où, comme le disait Émile Souvestre, dans Le Monde tel qu'il sera, un livre ironique sur les utopies du milieu du XIXe siècle, votre bottier se trouve à des lieux de votre tailleur, puisque la lettre B est à un endroit de la ville et la lettre T à l'autre côté de la ville. Voilà, donc la science-fiction nous propose des scénarios comme ça, je crois, d'avertissement, souvent, qu'il faut plutôt avoir tendance à éviter. Elle arrive avec des images positives du futur et de la ville du futur, mais ce ne sont pas forcément les images vers lesquelles nous, on se dirige aujourd'hui. Par exemple, dans la science-fiction, la nature est généralement considérée comme un élément perturbateur. La ville assainie, la ville protégée, c'est la ville sous cloche, que ce soit sous l'eau ou dans les jungles, que sais-je, où la nature a été repoussée en dehors de l'habitat humain.
La nature maîtrisée, repoussée, on va y revenir avec Luc Skuyten. Avant ça, Alain Bezuidval, vous dirigez la Sémitan. La ville de demain, c'est une ville où on se déplacera beaucoup et si possible, on se déplacera mieux. Comment on va faire?
Mieux, c'est en tout cas le souhait de l'ensemble des citoyens quand on les interroge sur leur désir de ville, si j'ose dire. Moi, je crois qu'on a un petit problème d'horizon, c'est-à-dire que 2030, c'est demain matin. Hein, c'est... Et d'ailleurs, si on fait un petit exercice intellectuel de se repousser en 1991, qu'était la ville en 91, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui en 2011, on en a renouvelé une partie, mais une partie relativement faible. Donc la ville de 2030, comme le dit mon voisin, va ressembler très fortement à la ville d'aujourd'hui, même s'il y a toute une série d'évolutions. Moi, j'ai l'impression que si on ne touche pas trop aux infrastructures, même si on les modifie dans un petit peu avec le temps, ce qui va changer beaucoup, ou ce qu'on essaye en tout cas de changer, c'est les comportements. Si on ne peut pas changer l'enveloppe générale, il faut bien qu'on change la façon dont on utilise les moyens qui sont mis à notre disposition. Et tout le débat qu'on a aujourd'hui, c'est changer les comportements quand on est résident, c'est-à-dire comment je vis dans les maisons, les appartements d'aujourd'hui en consommant moins, par exemple, ou sur le problème des déplacements, comment je me déplace demain avec une vision un tout petit peu plus, comment dire, partagée de la façon de se déplacer, donc avec un recours moins important à l'automobile, par exemple, ou le fait d'essayer de recentrer des quartiers avec toute une série de fonctions où on peut faire l'ensemble de ces missions à pied, à vélo, en tout cas par d'autres choses que la voiture. Donc moi, je pense que la grande évolution des 20 ans qui nous attendent, c'est de toucher au comportement. Et c'est peut-être plus difficile que de toucher aux enveloppes, parce qu'on peut faire tous les dessins du monde. Enfin, j'ai rien contre les dessinateurs, bien entendu. Mais je pense que c'est pas ça qui va changer. C'est dans nos têtes, hein, qu'il faut qu'on change. C'est dans nos comportements. Et ça, c'est plus difficile.
Mais dans 20 ans, on imagine une ville de Nantes dans laquelle la voiture a complètement disparu du centre-ville ?
Alors, du centre-ville, oui, certainement en grande partie, ou en tout cas la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que là aussi, on a tous un rêve collectif et en même temps une envie individuelle. Donc, comme on est un peu frileux avec sa voiture thermique, on rêve tous de retrouver un petit véhicule électrique qui retrouve à la fois l'avantage de la voiture et pas l'inconvénient qu'on reconnaît tous à la voiture. Bon, ceci dit, pour parler plus sérieusement, je pense qu'effectivement, les centres-villes, en tout cas, parce qu'en Europe, on est dans la ville européenne, hein, sont des espaces qui ont d'autres vertus que des vertus de déplacement. Hein, c'est des espaces culturels, c'est des espaces de patrimoine. Forcément, il faut en retirer au maximum l'automobile. Néanmoins, le besoin de déplacement sera le même. Et simplement, ce qu'il nous faut essayer d'organiser, c'est comment je crée des alternatives qui font que j'ai un recours choisi. Hein. Moi, je crois que ces comportements, ces choix, ce sur quoi il faut travailler, on n'imposera pas grand-chose si on n'arrive pas à rendre ces alternatives crédibles. Donc, c'est bien de vouloir vider les centres-villes de la voiture, mais il faut leur laisser une attractivité extrêmement forte et pouvoir s'y rendre de façon commode, parce que sinon, on va faire des musées de nos centres-villes. C'est pas ce qu'on souhaite en Europe, en tout cas. Donc, il faut combiner les deux. C'est un peu compliqué, mais c'est sans doute ce qui fait le charme de cette évolution.
Bien, et je vais me tourner vers Lux Keuten, qui est architecte utopiste. Vous avez imaginé plusieurs villes dans les années qui viennent. On va regarder, voilà, je crois, des images qui vont défiler pendant votre propos. Dans votre réflexion, dans votre travail, la nature est omniprésente. Vous nous dites qu'en gros, on a fait une erreur de bannir la nature, la biodiversité de nos villes, et qu'il faut rattraper cette erreur.
Oui, en fait, non, c'est une erreur. C'est pas ça les dessins qu'il faut mettre. Il faut mettre le dossier qui s'appelle Nantes. Ça n'a rien à voir. J'ai basé tout mon travail sur l'idée qu'il y a une sorte de dichotomie actuellement entre ce que les pouvoirs publics, le politique nous racontent. Ils nous disent que les nouvelles villes seront plus, on sera plus nombreux, il faut les agrandir, il faut monter plus haut, il faut tout augmenter. On est dans cette idée qu'on va continuer la surenchère. On consomme une fois et demie ce que la planète produit. En 2050, on va consommer deux fois. Il est évident qu'un ménage qui consomme plus que ce qu'il produit ne peut pas assumer convenablement et résoudre les problèmes majeurs financiers. Moi, j'ai pris l'option inverse en me disant qu'il faut trouver un système qui nous permet de répondre aux problèmes gigantesques qui va se poser dans les années prochaines. On a parlé de la pénurie d'essence, il n'y a pas que ça. Les matières premières telles que nous les connaissons et qui sont indispensables pour développer une civilisation industrielle auront quasiment toutes disparu d'ici 100 ans. On en a pour on a encore pour 79 ans pour le faire. pour l'argent, l'aluminium, le nickel, etc. On n'en a plus que pour une 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec une civilisation industrielle si on n'a plus les matières premières pour pouvoir l'alimenter? Avec une démographie qui continue à se développer, on arrive à une impasse complète. Alors, moi,
juste,
je pense...
Luc, je vais vous interrompre. Je pense que vous avez la clé USB dans votre poche.
Oui.
Voilà, et je vais la prendre et je vais la donner. Comme ça, on va passer les images en même temps.
Voilà.
Je suis désolé. Vous êtes sûr, il n'y a pas d'autres documents compromettants, hein? Ça s'appelle comment? Nantes.
Ça s'appelle simplement Nantes. Donc, simplement imaginer un monde futur qui pourrait fonctionner sur les intérêts du capital et plus en pompant sur le capital, ça me paraît être la seule solution durable, c'est-à-dire celle qui peut perdurer dans le temps sans appauvrir le système dans lequel on fait partie. Tout ce qui fait partie de la nature et du vivant sont par définition durables. Nous avons peut-être un peu trop vite oublié que nous sommes une des composantes d'un système très large qui s'emboîte, donc tout s'emboîte l'un dans l'autre pour créer cette espèce de magnifique équilibre qu'il y avait avant qu'on développe à ce point une civilisation industrielle.
Je crois que Patrick Guiguer veut intervenir.
En attendant tes images, Luc, mais en fait, la dichotomie que tu reproches à la civilisation d'aujourd'hui, toi, tu essayes de la combler peut-être en réintégrant la nature. Bon, je vais te laisser la parole tout de suite, mais en quelque sorte, ce que nous produisons, le capital, mais aussi la technologie que nous produisons, n'est pas à dissocier de notre civilisation. C'est-à-dire que nos ordinateurs sont les outils, les robots font partie de l'écosystème que nous avons créé pour nous. Donc je pense que, d'une certaine manière, il faut aussi intégrer, pour éviter le désir de décroissance et le retour à une espèce d'Arcadie rêvée et inaccessible, je veux dire, à moins de vouloir vivre dans les grottes, je pense qu'il faut intégrer la technologie dans cette réflexion-là, quoi. Voilà, c'était juste une petite parenthèse en attendant. Je vais te laisser commenter tes images.
Oui, non, je n'ai pas commenté les images, je vais laisser tourner. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas l'idée de renoncer tout à fait à la civilisation industrielle, mais de montrer qu'il y a d'autres voies qui peuvent être faites en parallèle, en complémentarité, et que l'on peut développer des systèmes qui sont beaucoup moins destructeurs de l'environnement. Vous savez, vous prenez une petite graine, vous l'achetez par terre, vous revenez quelques dizaines d'années après, il y a une structure géante qui s'est faite toute seule, avec simplement le soleil, l'eau de pluie, les nutriments qui se trouvent dans le sol. Et quand cet organisme vivant a poussé, elle a absorbé le CO2 qui se trouve autour de nous et qui est l'origine de nombreux problèmes que nous avons. Peut-être qu'en se disant qu'à partir de telles possibilités, nous pourrions réfléchir à voir comment on peut utiliser des structures aussi intéressantes pour créer dans le futur des structures qui vont être l'ossature de nos habitations, qu'on pourrait refermer après avec des formes de biotextiles, des choses comme ça, qui vont permettre de mettre en place des systèmes de fonctionnement qui peuvent se renouveler, qui peuvent perdurer dans le temps de manière tout à fait intéressante.
Alors, Luc, en regardant vos images, on se demande si ces images sont belles, c'est une évidence. Est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce qu'on peut imaginer l'île de Nantes, hein, sur laquelle, en gros, se crée Nantes 2030? Est-ce qu'on peut imaginer de belles images, de belles façades comme ça, ou est-ce que tout ça, finalement, n'est que de la science-fiction?
Ce que vous voyez là, c'est l'évolution d'une ville durant 300 ans. On est en 1950, ça va continuer à évoluer dans le temps.
Ouais, c'était l'image précédente.
Voilà.
Hein.
Mes perspectives futuristes se basent sur une science. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas du rêve que je présente. Ce travail est fait en coopératif avec des biométhiciens, des biologistes avec qui on a travaillé sur des possibles qui n'ont pas encore été expérimentées.
Oui, vous parlez de biomimétisme. En gros, on s'inspire des formes de la nature pour faire de l'économie, notamment, mais aussi de l'architecture.
Pas que les formes, ça c'est plutôt du biomorphisme, c'est surtout la manière dont la nature réalise des choses. La nature fait un biobéton qui est de loin supérieur au nôtre, mais sans haute température, sans haute pression, sans camion, sans usine, etc. Donc ça, les petits coquillages qu'on voit le long de la plage, c'est un biobéton extraordinaire, qui a bien plus de qualité que le nôtre. Et ça, c'est réalisé en absorbant une partie du CO2 de l'atmosphère. Il y a donc un savoir-faire qui se trouve dans notre environnement qui est fabuleux. L'araignée fabrique un fil qui est plus solide que nos aciers à section égale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même savoir-faire ? Les termites fabriquent des habitations gigantesques, des immeubles tours, ce sont après tout les premiers citadins, dans des habitations qui sont auto-climatisées. Sans chauffage, sans conditionnement d'air, il n'y a pas un degré de différence entre l'intérieur et l'extérieur qui peut varier de plus de 30 degrés. Comment font-elles ?
La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la recherche et développement de la biodiversité de plusieurs centaines de milliers d'années plutôt que de la détruire ? C'est ça. Mais je vais juste passer la parole à Eric Vidalin qui veut réagir. Hop, plutôt.
Oui, en fait, pour compléter tout ce que l'on voit là et ce qui vient d'être dit sur la ville et le biomimétisme que pourrait adopter la ville, l'évolution du système énergétique vers un système énergétique renouvelable, c'est exactement ça aussi. C'est passé d'un système où on consomme des énergies de stock qui sont issues de décompositions de matières organiques, donc charbon, gaz, pétrole, qui sont issues de décompositions de plusieurs millions d'années, à des énergies de flux. Et donc, c'est pas si simple que ça, parce que ça change vraiment la manière de raisonner. C'est-à-dire qu'on avait un tas quelque part, on allait piocher dedans, c'est ce qu'on fait depuis le début de la révolution industrielle. On pioche dedans quand on en a besoin. Et passer à un système énergétique qui fonctionne avec des énergies de flux, ça veut dire être peut-être plus souple et être plus capable de négocier avec certaines contraintes à certains moments. C'est pas tout de suite.
Mais comment, par exemple, on peut faire de la prospective avec, on le sait, des réserves de pétrole qui vont déclinantes, avec un baril de pétrole qui va exploser, dont le prix est à 100 dollars aujourd'hui, on imagine très bien qu'il double ce prix dans les années qui viennent. Comment est-ce qu'on peut faire de la prospective avec cette certitude désormais ?
Il y a deux manières de faire de la prospective. Une des premières, c'est en gros issue de ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la prospective exploratoire, où on développe les tendances actuelles. Et on voit où ça nous amène. En gros, ça nous amène dans le mur. Et l'autre manière de faire de la prospective, c'est ce qu'on appelle... Alors en français, c'est téléologique. C'est assez abscons. En français, ça parle... En anglais, ça parle peut-être un petit peu plus. C'est le backcasting. C'est-à-dire qu'on définit une cible. On dit où on veut aller, en fait. Donc collectivement ou de manière autoritaire. Après, ça se débat. Et puis on définit les sentiers de transition pour aller atteindre cette cible. Et de fait, on peut dire il faut atteindre la cible de réduction de consommation de 50%, 75%, etc. Après, on dit comment on fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre comme investissement, comme technologie, à quel moment, pour que les alternatives elles soient crédibles et que ce ne soit pas juste l'épaisseur du trait, comme c'est le cas aujourd'hui avec les renouvelables, quoi. Donc c'est vraiment une manière de penser. On change radicalement de manière de penser. À la place de dire on déroule des tendances qui sont insoutenables, on choisit où on veut aller, à quel horizon, et on définit les moyens d'y aller, technologiquement, économiquement et socialement.
Alors on verra comment les citoyens peuvent s'associer à une démarche telle que celle-là, peut-être qu'avec Nantes 2030 tout à l'heure, on en reparlera. Pierre Bordage, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui est dit, et est-ce que c'est pas frustrant de voir ce qui passe à l'écran derrière moi là, et puis de se dire, de toute façon, ça c'est très beau sur le papier, mais justement, on ne l'écrit pas, on ne le décide pas, donc ça ne reste qu'une illustration.
J'ai l'impression qu'on ne pourra jamais l'écrire parce qu'il y a une prédominance de l'économique qui est assez terrifiante. C'est-à-dire que quand on regarde notre civilisation, là, 20e siècle, la voiture a gagné, et c'est le plus mauvais système existant. Et c'est la voiture qui a gagné. Ça veut dire qu'on a couvert notre pays de routes, qu'on a sabré un peu tout, on a ouvert les forêts, comme le faisaient les Romains d'ailleurs. À chaque fois, on a les systèmes les pires, pas les pires, mais pas forcément les meilleurs, qui dominent, simplement pour des raisons économiques. Donc déjà, il faudrait retirer toute l'économie ou tous les enjeux économiques de la ville du futur, parce que je pense que si on garde les intérêts économiques, on ira là directement droit dans le mur, parce que tout le monde voudra sa part du gâteau, les bétonneurs voudront faire plus de béton, les voituriers voudront faire plus de voitures, etc., etc., et on n'en sortira jamais. Il faut vraiment amener une réflexion en dehors de tous les circuits économiques, parce que ce que dit Luc, c'est l'autoproduction quasiment, la production énergétique, se pencher sur par exemple les habitations des thermites qui produisent leur propre climatisation, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que plus on va aller vers l'autonomie, moins on donnera prise au système économique, et c'est vers là qu'il faut aller évidemment, c'est vers l'autonomie absolue en ce qui concerne le chauffage, parce que si on vit dans des climats un peu froids, ou la climatisation si on vit dans des climats un peu chauds, mais pour cette autonomie-là, il faut éliminer, enfin, ou remettre de côté tous les enjeux, les intérêts économiques qui nous gouvernent.
Mais Pierre Bordage, on va le dire, rêver, c'est pas très douloureux, ça fait pas mal, c'est gratuit même. En revanche, être prêt à changer, ça, c'est plus compliqué, non ?
Moi, j'irais jusqu'à dire, par provocation, mais bon, ça, j'ai illustré dans mes livres que le meilleur système existant au monde d'habitation, c'est le nomadisme. C'est-à-dire que je pense qu'on mesure une civilisation au degré de propreté dans lequel on laisse l'environnement dans lequel on est né. Or, si une civilisation nomade ne laisse pas de traces. Nous avons une culture de la pierre qui est de laisser des traces. D'ailleurs, sur la controverse de Valladolid, on donne une âme aux Indiens parce qu'ils ont créé des pyramides et que donc on ne peut pas les transformer en esclaves. Et parce que nous avons cette vision de la pierre et de la prédominance, la tour, ce qui domine. Je pense que l'exemple de civilisation, et quand je dis que la sagesse des anciens, et c'est paradoxal parce que je suis auteur de science-fiction, donc je devrais un peu voir dans le futur, mais je pense qu'il serait très urgent de se pencher sur la sagesse des anciens, sur tout ce qui concerne l'habitat, la préservation de l'écologie, etc., etc., l'autonomie, l'autoproduction, et le fait qu'on ne défigure pas le paysage dans lequel elle habite. Et nous, là, à la vitesse à laquelle on va, à la vitesse, parce que vous dites des voitures électriques, par exemple, voiture électrique égale production d'électricité, égale centrale nucléaire. Quand on me dit que les centrales nucléaires sont propres, j'ai tendance à rire, parce que les déchets, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est propre un déchet nucléaire ? Non, ça fait peut-être pas d'effet de serre, mais il y a d'autres types de déchets. Donc, chaque fois qu'on veut solutionner un problème par une autre technologie économique, si je dis bien économique, et c'est toujours garder en tête que c'est l'économie qui gère notre monde, chaque fois qu'on veut remplacer cette solution par une autre solution économique, c'est une autre catastrophe en perspective. On a vu Fukushima, voilà.
On va revenir avec Eric Vidalinque sur est-ce que l'ADEME est au service de l'économique. Mais juste avant...
J'avais juste une réaction à entendre Pierre aussi de façon provocante. Comment est-ce que tu imagines sortir de l'économique par rapport dans un environnement à 20 ou 30 ou 40 ans, ou même en tant qu'auteur, comment est-ce que tu as imaginé des environnements qui permettent de sortir d'une civilisation purement capitaliste, alors que toi-même, en tant qu'auteur, tu vends quand même tes livres, malgré tout.
Et Dieu merci. Ça me permet de payer mon chauffage. J'ai une habitation qui est très grande en chauffage, donc vraiment, heureusement que je vends des livres. Non, mais merci Patrick, je t'en voudrais ça.
Avant la conférence, ils étaient copains. Hein. On était
j'ai envisagé derrière. Ça dans l'évangile du serpent, c'est-à-dire une autre forme de civilisation qui est un néo-nomadisme, c'est-à-dire que les habitations n'appartiennent plus aux individus, mais à tous ceux qui les occupent, enfin, etc. Oui, ben, bien sûr. Quand on fait des prospectives aussi, je m'intéresse à l'économie. Et évidemment, je vois que l'économie est dominante, prégnante, et j'essaie d'envisager des civilisations où l'économie ne soit pas dominante. L'économie doit être au service. Et là, actuellement, elle est au pouvoir. C'est tout à fait la différence, quoi.
C'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, hein, où
oui,
le service devient... Ouais.
Moi,
Alain.
J'allais dire, moi, je ne m'adresse pas tellement aux anciens, parce que c'est la référence aux anciens, c'est la référence aux grands anciens. Je pense qu'il faut plutôt qu'on s'intéresse aux jeunes, à ceux qui sont à venir, et je pense qu'ils ont une approche qui, justement, sans doute du fait de la contrainte ou du fait de l'environnement dans lequel ils sont en train de vivre, ont sans doute une propension plus forte que la nôtre à vouloir bouger. Alors c'est très terre à terre, mais je pense que le rapport à l'automobile d'aujourd'hui d'un certain nombre de personnes jeunes n'est pas le rapport à l'automobile qu'à ma génération. On parlait de partage à l'humanisme, on commence à partager des voitures, ce qui est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, je pense, il y a 20 ans. Bon, c'est des tout petits débuts, donc les jeunes ont sans doute, du fait de la contrainte, alors c'est peut-être à cause de ça, sans doute des idées un tout petit peu plus avancées que les nôtres, parce que quand j'écoute Pierre aussi, j'ai le sentiment qu'on va dans le mur, qu'on n'a pas de solution, et qu'on va y aller joyeusement. Bon, je pense que les catastrophes annoncées ne se sont jamais toutes réalisées, donc je suis terre à terre, mais optimiste sur le fait que ça va bouger un tout petit peu, 20 ans, j'ai dit que c'est très court. Mais si les prémices de ces changements de comportement commencent à arriver, et plutôt choisis que contraints, parce que c'est quand même bien ça le problème, il faudrait qu'on arrive plutôt à ça par le choix, peut-être que l'avenir n'est pas aussi noir que celui qu'on décrit, mais il va falloir qu'on change. Et je pense qu'on a la capacité de changer. On a la capacité de changer.
Patrick Guillard qui veut prendre la parole.
Juste pour rebondir sur ça aussi, ce que disait Alain et aussi ce qui a été dit par rapport à la prospective, il y a en effet, il me semble, deux manières d'imaginer la ville de demain dans un système, si on veut. Il y a ce système d'extrapolation, on va dire, de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui me semble justement aboutir plutôt à des visions très, très sombres. Et l'autre système, et là je salue aussi la vision de Luc, c'est de proposer des perspectives et une vision utopique. Et je crois qu'on est en manque aujourd'hui, justement, de façon assez cruelle, de vision d'avenir, on va dire, meilleur vers lequel tendre. En riant avant, je disais à Luc que l'utopie, c'est évidemment un but qu'on ne doit pas atteindre, mais c'est un chemin que l'on doit suivre. Et là, je salue aussi l'idée qu'a eue la ville de Nantes de créer ce projet de Nantes 2030 et de la ville de demain, puisqu'elle appelle le citoyen aussi à donner des idées, en quelque sorte de former une espèce d'utopie, on va dire, non pas collective, mais en tout cas une utopie qui serait faite à plusieurs, ou en tout cas citoyenne. Et je pense que c'est aujourd'hui important d'avoir des images comme celles qu'on a derrière nous, non pas parce que j'estime qu'il faut aller dans cette direction-là, puisque l'utopie d'une certaine personne sera le cauchemar de l'autre. Pour moi, il y aura beaucoup trop d'insectes dans la ville de Lux Coyten. Mais je pense qu'il est quand même important pour nous faire sortir justement d'un schéma qui serait simplement l'extrapolation du système dans lequel nous vivons.
Alors, d'accord, je vais donner la parole à Eric avec une remarque, une question. Est-ce que faire de la prospective sur un schéma actuel qui est celui du XXe siècle, hein, en gros, c'est pas compliqué, c'est pas voué à l'échec. Il y a un exemple très clair et c'est pas le débat de ce soir, on est bien d'accord, mais on est en train de construire un nouvel aéroport à Nantes. Est-ce que ça, c'est pas sur un schéma où les matières fossiles sont disponibles, et est-ce que c'est pas un vrai problème, une vraie difficulté? Sans rentrer dans ce débat de l'aéroport qui n'était qu'un exemple, on est bien d'accord.
Oui, mais c'est un exemple, on va dire, concret, issu, parce que pour faire de la prospective, on utilise notamment des modèles, que ce soit des modèles techniques, d'ingénieurs ou économiques, qui représentent le monde tel qu'on le connaît, et les relations entre les différents éléments de ce monde-là, tel qu'on les connaît par rapport à notre observation. Donc effectivement, penser le futur à partir de ce que l'on a observé par le passé, ça restreint le champ des possibles, ça c'est sûr. Et pour prendre une illustration un peu caricaturale, on a tendance à vouloir résoudre la question énergétique et climatique via des solutions technologiques, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce que depuis 50 ans on a développé en gros dans le domaine énergétique, et surtout toujours plus d'offres. On disait il faut plus d'électricité pour être, c'est gage de bien vivre, de bien-être, etc. Donc on est dans cette logique-là, et quand on entend parler beaucoup d'acteurs d'énergie, ils disent ouais, le changement climatique c'est important, on va faire du nucléaire, du stockage de carbone, etc. Pourquoi ? Parce que ça reste des technologies de production. Donc on reste dans la logique productiviste avant de se commencer à se dire mais en fait c'est quoi ces besoins énergétiques ? Ils viennent de quoi ? De quelle façon de vivre, etc. Et je souhaitais compléter ce qui était dit, et ça permet de répondre aussi et de compléter ma réponse, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire passer à l'organisation, au mode de vie. Et quand on parle de l'autopartage, par exemple, effectivement, il y a quelques années, et je pense qu'il y a une question de génération aussi, ça semblait, on se disait, pourquoi partager une voiture, quoi, je peux m'en acheter une, j'en achète une, et je la garde en bas de chez moi. Voilà, sauf que quand on vit en ville, eh bien, c'est juste une source... d'emmerde, entre guillemets. Ouais, donc la notion de plaisir, elle est centrale pour moi. C'est même pas le fait de se priver. Si on peut dire qu'il y a la question de la rareté de l'espace qui est là, parce que quand on vit en ville, tout le monde peut pas avoir sa voiture en bas de chez soi, voire même deux voitures par ménage, comme c'est le cas dans le périurbain. Donc c'est même pas une notion de privation, c'est juste qu'une voiture en ville, ben, ça sert à rien, et qu'il y a des modes qui sont beaucoup plus pertinents et efficaces pour se déplacer.
Je vais faire un sondage, qui est venu en voiture pour écouter cette conférence? Bien sûr, personne ne va lever la main, voilà. Oh, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Je vous entends pas d'ici. Hein. Très bien, parfait. Non, mais c'était juste une boutade. Juste avec Eric, et puis ensuite, Luc, je vous passe la parole. Tout à l'heure, en préparant la conférence, vous nous donniez un certain nombre d'exemples de choses qu'on pensait immuables ou qui ne changeraient pas ou qui n'arriveraient pas. Et puis finalement, avec le temps, qui sont arrivés des exemples de produits ou de services.
Oui. Quand on regarde... pareil pour poursuivre hein, ce que vous proposiez tout à l'heure. Quand on regarde il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il y avait dans nos villes ? On avait des voitures électriques qui étaient là, les premières voitures électriques, c'était milieu des années 90. On avait des voitures qui faisaient moins de 4 litres au 100, donc des choses qu'on considère comme totalement écologiques aujourd'hui. Ça s'appelait des AX ou des 205, hein, c'était pas des voitures futuristes. On avait par contre pas ce qu'on appelle maintenant les nouvelles technologies de l'information et des communications. Donc ça c'est juste quelques exemples pour dire en fait il n'y a rien d'inéluctable. Il y a des technologies qu'on a sous la main qui peuvent nous rendre service, mais si on ne choisit pas de les développer pour des raisons qui peuvent être économiques, mais je ne mettrai pas l'économie au pilori au sens large, je pense que c'est des questions plus de jeu d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont intérêt dans le système, et ces acteurs ils sont puissants à un moment pour des raisons économiques, de pouvoir ou autre, et du coup ça renforce l'inertie. Mais on a des choses qui existaient il y a 20 ans, pourquoi on n'a pas développé la voiture électrique dès 20 ans, je veux dire, aujourd'hui, on aurait un parc qui ressemblerait à un parc, alors qu'aujourd'hui, on a 10 000 véhicules électriques en France, par exemple. Voilà. Alors que ce n'est pas une technologie nouvelle.
On a déjà du mal à produire l'électricité, à fournir l'électricité. Donc, rajouter l'électricité, sans l'électricité, comment on produit l'électricité ?
Alors, ça dépend. Les premières voitures électriques qu'on faisait, effectivement, c'était, je qualifierais pas ça de bête, mais en tout cas, en gros, c'était faire des Kangoo. C'est un peu ce qu'on recommence à faire. Hein. Donc, les mêmes voitures qu'on a aujourd'hui et mettre un moteur électrique. D'un point de vue énergétique, c'est absurde. Commençons à se dire, pourquoi je fais une voiture ? En fait, on fait des voitures pour déplacer 1,2 personnes en ville. Ça, c'est une réalité observée. On n'est jamais plus de deux en ville, dans sa bagnole. Et pourtant, il y a 5 places, et il y a 1,5 tonne d'acier pour déplacer une personne, un peu plus d'une personne en général, qui fait entre 70 et 80 kilos. Donc c'est absurde. Si déjà, on commence à repenser la voiture et à dire, on va faire des petites voitures, ça existe, typiquement, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des petites voitures de place qui existent, qui font entre 700 et 800 kilos, qui sont beaucoup plus efficaces. Et si on électrifie ça, là, ça commence à être intelligent. Mais si on électrifie les 35 millions de voitures telles qu'on les a aujourd'hui, qui pèsent 2 tonnes, on est d'accord que c'est loin d'être la panacée technologique.
Alors, il y a deux thèmes sur lesquels j'aimerais qu'on dise deux mots, c'est le temps, l'accélération du temps, la vitesse, parce que est-ce que la ville de 2030, eh bien, on y vivra encore plus vite, est-ce qu'on s'y déplacera encore plus vite ? Et puis la question du lien social aussi, comment on y vit ? Est-ce qu'on parlait de tours au-delà du métal ou du béton ? Comment est-ce qu'on vit là-dedans ? Est-ce que le 35e étage parle au premier étage ? Et comment est-ce qu'il y a des espaces collectifs ? Luc, un mot là-dessus, sur le temps, sur la vitesse, sur le lien social.
Pour moi, le temps, c'est vrai, c'est un réel problème. On est dans des systèmes qui s'affolent, qui s'accélèrent de plus en plus. On va aller de plus en plus vite pour tout faire. Et c'est là qu'on perd nos repères, nos valeurs. Et certainement pas que l'on garde, que l'on gagne en qualité de vie. Dans mes dessins, vous pouvez voir des engins pour se déplacer en l'air, qui sont des ornithoplanes à ailes battantes. Mais ces engins prennent, comme dans tous mes dessins, un modèle sur la nature, et voler par battement d'ailes consomme 2 fois moins d'énergie que voler avec un système à hélice et 10 fois moins qu'avec un système à réaction. Bon, on va moins vite, mais on va sans bruit, sans pollution, parce que ces engins, ce sont des sortes de gros dirigeables qui sont gonflés à l'hélium, et le battement d'ailes est actionné par des petits moteurs électriques qui fonctionnent avec des photopiles solaires qui se trouvent sur l'extrado des engins. Ce sont des engins qui sont très sûrs. S'il y en a 2 qui se rencontrent à la vitesse à laquelle ils volent, mais ce sont 2 airbags qui se cognent. S'il y en a un qui a un problème, il va se poser mollement un peu sur le sol. C'est autre chose. On n'est plus dans ce stress. On n'est pas dans cette idée que l'on va très vite. On est dans l'idée qu'on va augmenter la qualité de la vie, la qualité de l'air, une autre manière de fonctionner. Moi, je voudrais aussi peut-être, vite, tant qu'on m'a laissé la parole, arriver avec 2 bonnes nouvelles. C'est quand même important d'apporter de temps en temps des bonnes nouvelles.
Alors que vous voyez l'île Feydeau devant vous, voilà. Version Skuyten.
Voilà. Donc, deux bonnes nouvelles. D'abord, les énergies dépensées dans une maison peuvent être réduites à zéro. Les maisons passives, ça existe. On commence à en faire de plus en plus. On pourrait très, très rapidement arriver, en tout cas, à ce que les nouvelles maisons que l'on construise ne soient plus consommatrices d'énergie, mais puissent capter l'énergie nécessaire pour pouvoir la faire fonctionner. Ce serait un gain déjà fort important pour l'ensemble de la planète. L'autre bonne nouvelle, c'est que les choses ne sont évidemment pas inéluctables, qu'il est encore temps maintenant de prendre une direction tout à fait différente et de commencer à réfléchir dans un sens dans lequel on ne le fait pas encore maintenant. Et pour moi, les villes en transition, Transition Town, est un exemple absolument remarquable de quelque chose qui existe maintenant, qui a commencé, qui se répand comme une traînée de poudre. Ça existe à Nantes, il y a Nantes en transition. Il y a des gens ici dans la salle qui représentent ce mouvement et qui sont déjà partis dans cette idée que si on veut échapper à cette catastrophe qui s'annonce, il faut aller vers plus d'autonomie, vers d'autres systèmes, peut-être plus dépendre d'un système monétaire international qui se casse complètement la figure, mais créer une monnaie locale, toutes sortes de choses, fabriquer son énergie peut-être soi-même ou de plus en plus, commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut produire et consommer au même endroit ou tout près. Et dans ce sens-là, ce que tu disais sur les villes me paraît tout à fait évident. On va un moment se dire qu'on ne peut plus aller chercher notre nourriture de l'autre côté de la planète, qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas les moyens de faire ça et qu'il faut commencer à faire les choses autrement. Vous savez que nos villes sont arrivées maintenant à avoir 3 à 4 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire quand il y a une crise grave qui se passe, on peut manger pendant 3 à 4 jours. Jamais on a été à ce point dépendant d'un système foireux. Et on va nécessairement, évidemment, vers des problèmes majeurs. Sauf si on commence à être un peu plus intelligent, à créer des lieux de consommation et de production qui sont à côté des lieux où on vit. C'est une évidence complète.
Merci Luc. On va essayer d'être intelligent. Patrick, non, c'est Alain qui veut d'abord.
Allez-y. Non, je voulais juste dire que quand on lit c'est ce qui est demandé dans un souhait assez accessible, c'est on parle d'une ville de la proximité. Et je pense que quand les gens parlent de la ville de la proximité, c'est qu'ils veulent avoir une relation autant différente de celle qu'on leur impose. D'ailleurs, je suis frappé de savoir, c'est gagner du temps, c'est bien, mais la question, c'est pas de gagner du temps, c'est gagner du temps pour quoi faire. Hein, donc, gagner un quart d'heure si c'est pour ne moins dormir ou pour regarder une émission stupide à la télévision, je suis pas sûr que le gain de temps soit un objectif extrêmement intéressant. Bon, donc, il vaut mieux avoir de la proximité pour faire un tout petit peu d'échange. Je dirais la même chose des technologies modernes, avoir des moyens technologiques extrêmement performants, mais ça c'est une de mes lubies, là, pour échanger avec le reste du monde et pas parler à son voisin de palier, je suis pas sûr non plus que ce soit un bon usage de la technologie qu'on met à disposition. Donc j'en reviens toujours à ma lubie première, c'est-à-dire que c'est pas les moyens techniques qui vont faire changer les choses, ils sont là, ils sont disponibles, c'est l'utilisation qu'on en fait et comment on les met à notre service. Donc le temps, il doit être mis à notre service, et pour être mis à notre service, il faut de la proximité, puisque c'est dans cette proximité qu'on utilisera au mieux le temps, en rencontrant les gens, en ayant à proximité de chez soi l'école, peut-être l'emploi qu'on cherche, et en tout cas d'autres espaces. C'est pas en passant une demi-heure ou une heure et demie dans un transport qu'on pourrait réduire de 10 minutes. Ça n'a pas vraiment d'un intérêt majeur. Hein. Donc on veut de la proximité. Bon, la proximité, ça se construit et c'est assez long à construire, mais j'ai l'impression qu'on voit des évolutions aujourd'hui. Moi, je suis frappé par le retour des petites supérettes dans les quartiers, alors qu'il y a 15 ans encore, le modèle, il est encore dominant. C'était le modèle des grandes surfaces dans les échangeurs d'autoroutes. Ceci dit, il y a un retour vers le centre-ville de petites surfaces de proximité. Bon, ça veut dire aussi quelque chose sur l'organisation, et ça veut dire quelque chose sur la façon de se déplacer. C'est redonner de la proximité, donc il y a des petites choses qui bougent.
Une colle, on peut faire combien de kilomètres à Nantes et dans son agglomération ensemble en transport en commun, en kilomètres cumulés?
Oh là là,
Voilà, ok.
C'était la question méchante. Ah, c'était la question méchante. Voilà, bah, il faut que j'y réfléchisse.
Beaucoup, j'imagine. Patrick Guir.
Oui, deux remarques sur ce qu'a dit Luc Scruton. Déjà, je ne pense pas, moi, qu'on soit dans un système foireux, hein, personnellement, je trouve qu'en ce début du XXIe siècle, on est dans les sociétés occidentales, dans un confort de vie comme jamais.
Merci,
en fait.
Tu veux dire mm-hmm. Merdique.
Non, absolument pas. Enfin, pour la plupart des gens qui ont, enfin, en Occident, il y a l'éducation pour tous, ou pour beaucoup. Il y a la nourriture pour beaucoup. Il y a des toits pour beaucoup. Pour beaucoup plus qu'au 18e ou 19e siècle, ouais, ou au Moyen-Âge.
Il y a quand même 7 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quoi.
Bien sûr, mais je pense que, enfin, par rapport au nombre de personnes, au pourcentage de population, regardez le pourcentage en 1860 ou au 17e siècle. Qui vivait en dessous de la pauvreté. Hein. Donc là, je pense qu'il faut quand même rentrer dans une perspective un peu historique aussi. On a quand même l'accès à des données de base relativement faciles. On est dans un système qui est potentiellement foireux, en tout cas, extrêmement foireux, mais potentiellement. Et le but, c'est d'éviter cela. Évidemment, ce n'est pas, je ne dis pas que tout est merveilleux, mais je crois qu'on vit aussi à la fois dans le cauchemar et dans les utopies du passé. D'une certaine manière, il faut réussir à préserver ce qui a été construit, mais sur des bases peut-être qui n'étaient pas les bases qu'il fallait, sur lesquelles il fallait les construire. Donc ça, c'est ma première remarque. Ensuite, dans ce que j'entends ici, il y a quand même à terme, si on veut éviter que l'on ne puisse avoir que 3 jours ou 4 jours d'autonomie et consommer de façon extrême l'énergie, je crois que puisqu'on parle de ville, il n'y a que la disparition des villes en tant que telles, pour que ce soit le nomadisme ou des systèmes d'agglomération beaucoup plus petites. Je pense à des gens comme Jacques Fresno, par exemple, qui est un prospectiviste important depuis les années 60-70, qui lui a imaginé que les villes les plus grandes pouvaient abriter normalement 40 à 50 000 habitants. Et lui, il pense qu'au-delà de cette masse, eh bien, le système ne peut pas fonctionner de façon viable. Voilà, il faut revenir à des communautés un peu petites. Donc voilà, la ville du futur, c'est soit la ville de l'apocalypse, la ville détruite, soit la fin de la ville. C'est une ville beaucoup plus petite, c'est une cité, c'est un village peut-être, la cité du futur. Voilà, en tout cas, comme l'imaginent certains auteurs de science-fiction.
Éric Vidalin, là-dessus, sur la taille des villes, et puis peut-être sur la... J'aimerais, Patrick, ensuite, qu'on écoute quelle est la place de l'artiste, quelle est la place de la culture dans la ville, et en quoi eh bien, cette culture elle peut influencer la ville de demain.
Alors, à tout moment... Dans n'importe quelle discussion, à un moment, on fait référence à des expériences personnelles et à sa grand-mère. Donc, c'est le moment où je vais faire référence, pas à ma grand-mère, mais à moi. Donc, en tant qu'Antalien, je viens d'Aurillac. C'est une agglo de 50 000 habitants. C'est pas un village, quand même. voilà, donc c'était la petite anecdote personnelle. Mais effectivement, quand on parle de ville du futur, le premier contre-exemple que vous évoquiez tout à l'heure, la métropole, c'est absolument pas le système qu'on considère... Comme soutenable. La tour, hein, j'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure, mais c'est tout sauf écologique, une tour. Hein. On est d'accord. Quand j'ai dit c'est une impasse, c'est que voilà, il faut mécaniser tout ça pour envoyer des bonhommes en haut, en bas, il faut climatiser. Enfin, c'est absolument pas une solution. C'est de la densité au kilomètre carré, mais c'est absolument pas une solution écologique. Et puis, en termes de densité, juste pour permettre aussi d'imager un petit peu ce dont on parle quand on parle de densité, le Paris intramuros, le Paris haussmannien, il a une densité qui est bien supérieure aux grands ensembles. Les grands ensembles, en fait, c'est la population concentrée dans des bars ou des tours, certes, sauf qu'il y a d'immenses zones qui sont vides à côté de ça, il y a d'immenses infrastructures routières, etc. Donc, c'est absolument pas ça, la densité. C'est absolument pas les grands ensembles des années... 60-70. Hein. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à la question, c'est-à-dire que c'est pas la mégapole qui semble la ville soutenable parce que elle a une dépendance à l'extérieur qui est très forte, parce que c'est un peu le modèle de métropolis, souvent. C'est pas des strates verticales, mais c'est des strates horizontales. On a en gros le centre qui est le prédateur de la périphérie. La ville a besoin de la périphérie pour s'alimenter en énergie, en alimentation, etc. Donc c'est absolument pas ça qui peut sembler une utopie écologique. Quoi.
Patrick Guiger, sur le rôle de la culture en ville et en quoi eh bien, cela influence la construction, l'évolution de la métropole.
En fait, là, je crois que la culture, évidemment, dans une ville, a un rôle central. Je ne dirais pas le contraire, puisque ça fait partie de mon travail aussi. La culture est toujours quasiment politique au sens premier du terme.
Politique.
Politique, oui, politique. D'accord. Puisqu'elle vient structurer, en fait, l'environnement, la civilisation, en quelque sorte. La civilisation est bâtie en grande partie sur le domaine culturel, sur les liens, on va dire. On parlait des liens sociaux, et pour moi, ils se font principalement à travers la culture. De façon très pragmatique, on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas en début du XXIe siècle, les lieux de culture de toutes sortes sont là pour, on va dire, créer du lien, pour fédérer, et ils servent en fait quelque part de tête de pont et d'avant-garde pour la rénovation des centres-villes, par exemple, ou des lieux qui sont laissés, qu'on veut reconquérir. Ça a été le cas, par exemple, dans 100 quartiers de la Madeleine, entre le lieu unique et la Cité des Congrès. Ce sont deux éléments, on va dire, tout à fait transformateurs de l'environnement urbain. Même chose pour l'île de Nantes, où que ce soit la Galerie des Machines, l'École des Beaux-Arts ou encore la Fabrique, c'est pas pour rien que ce sont parmi les premiers éléments qui ont été imaginés, puisque la culture, c'est aussi aujourd'hui, alors on peut le critiquer ou pas, c'est une nouvelle forme, on va dire, d'industrie, hein, puisque avec ces environnements culturels viennent les classes de designers, de ce qu'on appelle les créatifs aujourd'hui. Et on va dire, on travaille moins dans l'industrie lourde et plus dans la matière grise, quelque part. Et moi, je suis plutôt, évidemment, pour, mais je crois que c'est vraiment, clairement, c'est ambivalent, puisque à la fois, ça peut être utilisé, en quelque sorte, comme je disais, comme une espèce de tête de pont pour la reconquête de certains territoires.
Luc et Pierre, sur cette question de la culture et le poids des citoyens pour faire évoluer le sens de la ville, c'est la démarche de Nantes 2030.
Moi, je pense qu'un des tout, tout gros problèmes que nous avons, c'est une civilisation de consommation. Notre culture est une culture de consommation. Le sport est un sport de consommation. On le regarde, etc. On n'y participe pas réellement. Dès le moment où on sort de cette problématique, et on va être obligé, puisqu'on n'aura pas les moyens de continuer à consommer et acheter tout ce qui est inutile que nous consommons, on va arriver dans une autre ouverture qui est pour moi notre chance. C'est d'arriver à ce que ce temps libre qui nous restera pourra être mis à profit pour pouvoir développer ce que nous avons chacun en nous. Je pense que nous sommes chacun artistes, que nous sommes chacun en partie sportifs ou aventuriers, etc., et que nous avons d'énormes possibilités, et que l'équilibre, le bonheur, il est dans l'emploi de ses propres possibilités. Et je vois avec beaucoup d'intérêt le fait que on sent que les choses commencent un tout petit peu à changer déjà, et que on s'ouvre progressivement à une créativité qui était réservée seulement à certaines personnes qui portaient le titre prestigieux d'artiste et d'autres sportifs ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, je pense que c'est plus facile de développer cette idée que tout le monde, c'est accessible à tout le monde.
Pierre.
Alors, on a un discours très occidental, puisque nous sommes occidentaux. Les mégalopoles existent dans le monde. Ça s'appelle Mexico, ça s'appelle Bombay, ça s'appelle Calcutta, Shanghai, Pékin, etc. Et j'ai l'impression que par rapport à ce que tu disais, la réalisation de soi, qui est l'état supérieur de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, que la mégalopole ramène l'être humain aux besoins fondamentaux qui sont de se nourrir et de se loger. Quand on voit ce qui se passe à Bombay, par exemple, le bidonville de Bombay, une sorte d'agglomération dans l'agglomération, et là, les gens ne sont préoccupés que par le fait de manger et de se loger. Donc, on est très loin de la relation, la culture n'a plus rien à voir. Je veux dire, la seule culture, c'est bouffer, quoi. Et j'ai l'impression que cette espèce d'exode vers les cités, qui sont comme des mirages, finalement, et qu'on désertifie les campagnes, parce que c'est dans la ville que ça se passe, ramène l'être humain à ses besoins fondamentaux qui sont de se loger. Regardez à Paris. Paris, vous voulez vous loger à Paris, c'est quasiment impossible. Donc il faut travailler beaucoup pour pouvoir se loger. Donc on n'a pas le temps de sortir, on n'a pas le temps de s'intéresser à la culture, on n'a le temps de rien parce qu'on est déjà pris par ses besoins fondamentaux. Et je, alors tu disais, Patrick, je constate que vous avez dit tout à l'heure, Alain, par rapport aux anciens, moi je parlais des grands anciens, hein, je pense que, et vous avez vous-même dit que comme le retour des commerces en ville, c'est quelque chose d'ancien. Parce que finalement, on se rend compte que c'était pas si idiot que ça d'avoir des commerces de proximité. Et non pas d'à un moment, c'était la grande mode d'avoir une espèce de grands centres commerciaux aux périphéries des villes, tout le monde y allait avec sa petite bagnole, on remplissait la bagnole, etc. Donc finalement, les modèles anciens sont pas si mauvais que ça. Il y a une sagesse des anciens qu'il faudrait essayer de reconquérir, je pense. C'est une vieille lubie, c'est peut-être un peu paradoxal pour un auteur de science-fiction. Mais justement, je pense que c'est ça le rôle finalement de l'auteur. Si on parle de culture, on parle de culture, c'est d'essayer d'explorer des voies nouvelles en se servant aussi des anciennes. Et je pense qu'il y a une urgence absolue parce que nous, nous n'avons qu'une vision. Si vous allez à Bombay, à Mexico, etc., vous allez avoir une vision de la mégalopole qui va vous changer un peu la vie, quoi. C'est-à-dire, mais jamais on doit arriver à ce genre de truc. Le gain du temps, oui, super le gain de temps. On a son smartphone, on peut téléphoner à distance, seulement on perd 3 heures dans les embouteillages, quoi. Où est le gain de temps? Quel est l'intérêt de ce truc-là, quoi, de faire 3 heures d'embouteillage, 1h30 le matin, 1h le soir pour rentrer chez soi ou aller au boulot? Il faut réfléchir à tout ça. La culture, une fois qu'on a établi cette base de besoins fondamentaux, après on peut s'en changer à la réalisation de soi-même et donc aller vers la culture. Mais pour l'instant, j'ai l'impression, tu parlais du 19e d'ailleurs, Patrick, j'ai l'impression qu'on revient au 19e du coup, parce que cette espèce d'urbanisation sauvage crée des inégalités totales et avec une sorte d'élite enfermée dans sa tour d'ivoire. Toujours les gens ont tendance à se réfugier là-haut, et autour de ça une population miséreuse qui ne songe qu'à manger et à se loger, quoi. Et j'ai l'impression que cette vision-là, et la vision libérale entre autres, la vision libérale nous amène à ça, parce qu'elle va augmenter considérablement les inégalités. On le voit, hein, c'est en train de se passer dans notre pays, là, maintenant.
De nouveau, je vais faire avocat du diable, je pense.
Moi aussi, je suis avocat du diable là-dessus.
Mais... Je crois qu'on est quand même comme jamais dans une société de loisirs. Hein. Je veux dire, on n'a jamais aussi peu travaillé qu'à l'heure actuelle.
On va bosser jusqu'à 67 ans, les 35 heures, c'est foutu.
Ce que je disais, c'est que voilà, c'est pas pour l'instant. Je trouve que c'est pessimiste, ou c'est en tout cas, moi j'ai la peine avec ce discours. Il y a deux discours qui, moi, m'insupportent, on va dire. C'est celui, c'était mieux avant, et il faut revenir à quelque chose du passé. Je pense qu'il y a des choses du passé qui sont intéressantes, évidemment, sur lesquelles construire. Et l'autre, c'est tout va aller vers le plus mal. Potentiellement, oui, mais je crois qu'on peut encore, on est là justement, entre autres, à discuter aujourd'hui pour éviter ça. Aujourd'hui, je veux dire, les inégalités, elles existent. Peut-être plus qu'il y a 10 ou 15 ans, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, c'est vous qui avez ça en tête, mais probablement pas plus qu'il y a 50 ou 100 ans.
Non, mais ça ne sert à rien de passer sur un passé lointain en disant « ouais, c'était nul avant ». Ce que je veux dire, c'est tirer des leçons du passé.
Bien sûr, mais en même temps...
Et donc enfin, d'éviter de reproduire les erreurs.
L'espérance de vie, aujourd'hui, elle est plus importante que à n'importe quel moment dans l'histoire.
Ou en France, en Occident.
Oui bien sûr, moi je parle... Voilà, de nouveau, il ne faut pas qu'on généralise quoi, trop. Quoi. Moi, ouais. C'est pour ça que j'ai précisé il y a quelques minutes, je parlais des sociétés occidentales. Mmh. Parce que sinon, on est vraiment dans d'autres problématiques.
On est hors sujet. Oui. Juste un mot sur les inégalités croissantes. Bon, peut-être que vous avez les statistiques en tête, Eric. Et puis, une autre question sur la façon ou le rythme auquel les métropoles, les villes en France, on reste en France, gagnent sur le foncier disponible, en fait. En quoi l'urbanisation est galopante et sauvage, comme le mot qu'utilise Pierre?
Ouais. Alors, sur les inégalités, on n'a jamais eu de tels écarts entre les plus riches et les plus pauvres. En gros, les plus riches, aujourd'hui, ça dépasse tout ce qui est tout ce qu'on a rencontré historiquement. Mais ça, c'est un phénomène récent. Hein. C'est, on va dire, cette hyper-richesse, elle est très récente, mais on va dire que c'est le capitalisme des années 80-90 qui a amené à construire ces choses-là.
On est en France, là.
On est en Occident là-dessus. Et pour poursuivre par rapport à notre thème qui était la ville, la question de l'accès aux villes est évidemment centrale. Et je poursuis sur ce que vous disiez, c'est que quand j'ai dit tout à l'heure avoir une voiture en ville, c'est juste, c'est débile, ça n'a pas de sens, c'est inutile et tout. Sauf que la question est comment on a accès à la ville. Et effectivement, à Paris aujourd'hui, prenons l'exemple d'un ménage qui se situe dans le décile supérieur. Donc c'est les gens, les 10% les plus riches en termes de revenus. On ne parle pas de capital. Après, si on y rentre, c'est différent. C'est en gros des gens qui vont gagner à peu près en couple 6000 euros par mois. C'est impossible de se loger, d'acheter un logement. Donc vous faites partie des 10% les plus riches. Mais vous n'avez pas accès au logement dans Paris. Donc voilà, de manière très concrète, on voit comment ça se traduit. Et à partir de là, on a beau tenir tous les discours qu'on veut sur « ouais, pensez à habiter près de votre emploi, etc. », c'est juste que ça n'a pas de sens parce que la réalité économique derrière fait que l'accès au foncier est évidemment crucial et qu'il y a une ségrégation urbaine qui est considérable. Il y a 3 semaines, il y avait une infographie dans Le Monde qui faisait un reportage sur les banlieues qui était très intéressante. On représentait Trappes se trouve à 1h30 de Châtelet-Les-Halles, du centre de Paris. 1h30. Lille se trouve à 1h15 de Châtelet-Les-Halles. Voilà. Dans un sens, on est à 30 km, dans l'autre, on est à 250 km. Voilà. On voit ici la ville qu'on a construite et la ségrégation spatiale qu'on a construite. Et la deuxième question.
Oui, c'était la façon, enfin le rythme auquel.
Le rythme auquel on consomme l'espace. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est, depuis la dernière décennie, c'est à peu près 60 000 hectares par an. Ça, ça parle probablement pas beaucoup, mais pour vous donner un ordre de grandeur, on a 30 millions d'hectares de surface agricole utile, c'est-à-dire de surface qu'on utilise pour la production alimentaire, la forêt, etc. 30 millions. Si on continue à consommer autant que ça, jusqu'en 2050, donc on consomme plus d'espace que... La croissance de la consommation d'espace est plus rapide que la croissance démographique. Donc c'est pas parce qu'on est de plus en plus, c'est juste parce qu'on dit, ben tiens, on va s'étaler de plus en plus si on veut des maisons de plus en plus grandes, et on va construire de plus en plus loin, de plus en plus étalées. Si on continue comme ça jusqu'en 2050, donc les horizons qui nous intéressent un peu, c'est 2 millions d'hectares. Donc on voit qu'il y a un peu moins de 10% de la surface agricole utile qu'on va grignoter. Donc toute la production de biocarburants, le stockage de carbone, etc. qu'on voulait faire, via la biomasse, eh bien on va se priver de ce potentiel-là de 2 millions de surfaces agricoles utiles en continuant à construire des lotissements, à artificialiser via des routes, via des centres commerciaux, etc.
Alors, Alain, ouais, forcément.
Non, mais
on va donc se déplacer de plus en plus loin à l'intérieur de la ville.
C'est déjà un peu ce qu'on fait, mais je pense que là aussi, c'est un état de fait qui aujourd'hui est bien connu. Enfin, l'étalement urbain, c'est, même si ça fait 20 ans qu'on le déplore, parce que, mais j'allais dire, là aussi, il commence à y avoir un certain nombre de prises en compte au travers de documents d'urbanisme, en faisant un lien un tout petit peu plus étroit entre l'urbanisme et le transport. Même si il ne faut pas dénier le fait qu'il y a une composante économique extrêmement forte dans les causes de l'étalement urbain. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'agglos aujourd'hui qui ont bien intégré effectivement que l'étalement urbain, c'est une non-réponse à nos problèmes. Hein. Donc là aussi, vu la vitesse à laquelle on fait bouger les choses, 20 ans, c'est encore assez court pour qu'on ait des effets extrêmement massifs d'un retour vers des choses un tout petit peu plus maîtrisées et partagées. Moi, j'allais dire, en vous écoutant, j'avais le sentiment que la France, puisqu'on va parler de la France, est peut-être passée à côté de quelque chose de désagréable, en fait, puisque nous avions un réseau de petites villes. Enfin, la France, c'est pas en termes de grandes villes, c'est vraiment pas l'archétype de ce qui se fait en Europe. Et on avait tout ce réseau des petites villes, des préfectures de 30, 40, 50 000 habitants sans une ville, hein, comme Aurillac, par exemple. Et que ce modèle des petites villes, il a tout doucement périclité pour des raisons de qu'est-ce que je trouve dans ces petites villes, de l'incapacité qu'on a eue d'y maintenir un certain nombre de services, de créer ces liens, ces toiles entre les villes, parce qu'une ville, ça fonctionne pas tout seul, ça fonctionne dans un réseau. Je pense que quand on parle aujourd'hui, y compris dans nos agglos de villes polycentriques, on rêve aussi de revenir à un schéma dans lequel il y a des petits pôles et puis une espèce de toile qui se fait entre ces différents pôles, une ville de proximité, mais avec des liens entre chacun de ces points de proximité. Comme si on pouvait faire une espèce d'image en plus petit d'une France dans laquelle il y aurait des villes de 50 000 habitants bien reliées. C'est un modèle qui n'est pas peut-être encore complètement perdu, parce que c'est encore une des chances de notre territoire, me semble-t-il, d'avoir cette structure-là. Et quand on regarde la carte de l'Europe, c'est très très différent de ce qui se passe en France, de ce qui se passe sur la fameuse banane des Pays-Bas, Belges, etc. Hein. C'est très symptomatique. Et on a cette image, je trouve, quand on regarde les photographies aujourd'hui de l'Europe éclairée, on a cette grande frange jaune complètement éclairante de toute cette frontière.
que, au-delà de la culture, est-ce que les citoyens ont voix au chapitre dans cette imagination et dans ce rêve de la ville en 2030 ? Thierry Violon.
Voilà, ça marche. Ils ont voix au chapitre, oui, on a démarré, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais enfin, vous l'avez assez dit, donc je vous remercie. On a démarré, les 24 maires d'agglomération nantaise, pour redire les choses, ont décidé de lancer cette démarche pour un nouveau projet pour la métropole, il y a, en octobre 2010, et maintenant, je pense qu'il y a à peu près 10 000 personnes déjà qui ont contribué. Donc, je veux dire, les gens répondent à cette question. Alors, 2030, ça peut apparaître loin, mais les gens répondent. Ça, c'est la réponse à votre question. On y est encore. Il y a plein de manifestations. Je vous invite à y aller. Des cafés, des manifestations originales. En fait, on essaye de faire, je ne sais plus qui le disait, une prospective, mais pour l'action. C'est-à-dire, quel scénario collectif on se donne, quelle ville on veut pour demain, et quels sont les chemins pour y arriver. Donc, on est vraiment dans cette idée que c'est une prospective, mais agir pour arriver à ce qu'on souhaite collectivement. Mais du coup, j'ai quand même plein de... Je peux faire deux, trois remarques sur ce que j'ai entendu.
Bien sûr, bien sûr.
D'abord, je veux rappeler qu'une ville... Parce que c'est assez négatif sur la ville, tout ce que j'ai entendu, d'un certain point de vue. D'abord, je veux rappeler qu'une ville, c'est des gens. Parce qu'on parle de la ville comme ça, de façon théorique, mais c'est nous, quoi. C'est des habitants. Je dis ça parce que je vais dire une deuxième chose après. C'est chouette, la ville, quoi. C'est l'échange. Enfin, la ville, c'est quoi? Pourquoi il y a une ville dans l'histoire? Parce que dans les villes, on se rend compte, parce qu'on parle, parce que voilà, et qu'elle soit petite, grande ou moyenne. Donc la ville, c'est quand même, c'est pas d'abord affreux, la ville. Alors après, évidemment, il y a Bombay, j'ai entendu Mexico, Bombay, Paris, Nantes et Aurillac. Moi, je m'occupe pas du monde, je m'occupe que d'essayer de faire qu'ensemble, on réussisse à définir la métropole nantaise de demain. Mais une ville, c'est quand même bien. Que deuxièmement, si on veut se projeter, je reparle de Nantes là, je vais essayer de parler 30 secondes de Nantes et de l'agglomération nantaise. Il faut être aussi au clair sur les constats. Et la première chose, c'est que sur la question de la mobilité, je veux rappeler une chose aussi. Oui, il y a des enjeux environnementaux importants, mais la mobilité, c'est la vie, quoi. On a tous envie de bouger. Et les nouvelles technologies, elles ne remplacent pas la rencontre. Donc, il ne faut pas qu'on ait cette impression. Enfin, et je ne crois pas que dans le... Parce qu'il y avait la première phase de la démarche, ça a été d'interroger les gens sur les valeurs. Vous parliez des valeurs tout à l'heure. Oui, il y a la question des valeurs. Et cette question de la rencontre, elle est fondamentale. La plupart des gens, vous, nous dites, on veut une ville où on peut se rencontrer, mais on ne se rencontre pas si on ne peut pas bouger. Donc, il faut quand même répondre à cette question de la mobilité et pas la voir seulement comme un problème. Je précise aussi, puisque vous évoquiez la question de la relation d'une grande métropole, petite à l'échelle du monde, grande à l'échelle de l'Ouest au monde. Je ne sais pas si l'aéroport mange des terres ou pas, mais il faut bien... Enfin, moi, je ne suis pas partisan, là, je donne un point de vue, mais je ne crois pas que ça serait bien... De villes ou de territoires qui se replient sur eux-mêmes, qui refusent d'échanger avec le monde. Je suis très content qu'il y ait un institut d'études avancées, et je crois que les Nantais, Marcel Sopin, et qu'on puisse accueillir des chercheurs indiens qu'on réfléchisse ensemble aux questions sociales. Donc je veux juste dire ça, parce que positiver un petit peu. Puis dernière chose, pour ne pas monopoliser la parole, je pense ici en tout cas, que, et là ça a été dit par Alain, et je pense qu'il a tout à fait raison, ici, hein, alors dans d'autres endroits ici, mais moi je parle de Nantes, je pense que la construction de cette métropole avec des pôles importants, Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi avec des villes plus petites, mais qui maillent le territoire, Nord-sur-Erre, Sainte-Pazanne, pour les citer, Savenay, c'est cette métropole-là qu'on est en train d'inventer, celle où la campagne fait partie de la ville. Je ne dis pas qu'on y est encore, mais c'est celle-là qu'on est en train d'inventer. Et donc, je crois que c'est vers ce modèle-là, c'est pour ça qu'on travaille sur cette question, qu'on essaye d'aller. Donc on puisse aller de Nord-sur-Erre à Nantes, il n'y aura qu'une cité des congrès, mais qu'on puisse y venir, parce que la mobilité, j'y reviens, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès à la formation, c'est pas seulement le problème de la nourriture, c'est essentiel, la culture, l'éducation. Vous disiez tout à l'heure que c'est un besoin secondaire, au fond, après manger, oui, c'est vrai, un toit, se loger, mais au fond, même en Afrique, quand on regarde les questions démographiques qui sont fondamentales, par exemple, une partie du travail auprès des femmes, notamment en Afrique subsaharienne, c'est la question de l'éducation, parce que c'est ce qui permet aussi de limiter la natalité. Donc l'éducation est quelque chose de fondamental. Donc je voulais dire ça pour positiver un petit peu la situation dans laquelle on est. Si on est Green Capital, s'il y a ces éléments-là, c'est qu'on a quand même des atouts. Et je voudrais dire une dernière chose pour parler des gens, justement, c'est que ce qui nous a frappé dans la première étape de la démarche, et de la réflexion, et des valeurs, c'est qu'il y avait une double attente. La première, c'était, que je vais qualifier comme ça, de « Little Big City ». C'est-à-dire que la demande des Nantais, au sens large, hein, qui habitent au Pèlerin, voire même à Nord-sur-Erre, c'est de dire, on veut à la fois les avantages de la grande métropole, donc un CHU, parce qu'un CHU, c'est la santé au top, des manifestations culturelles, une cité des congrès, des spectacles, alors ça dépend des catégories d'âge. Et puis en même temps, on veut une vie de proximité, on veut un quartier agréable à vivre, avec des espaces verts, avec des lieux de rencontre, voilà. On veut tout et son contraire. Et donc c'est cette construction collective-là qu'on est en train d'essayer de faire. Ce sera difficile, mais je suis optimiste sur l'envie, en tout cas, des gens, d'essayer de trouver ce nouveau chemin qui concilie à la fois les questions de développement, les questions sociales et environnementales. Je dis ça parce que les questions environnementales sont aussi des questions sociales. C'est-à-dire que isoler les logements, c'est bien, mais ça a un coût qui paye. Et donc, pour beaucoup de gens, la précarité énergétique, c'est une question. Donc, les questions sociales et économiques ne sont pas indépendantes de toutes les questions environnementales qu'on a évoquées.
Merci Thierry Violent. C'est normal, on met la science-fiction dans le débat, donc forcément, ça pose question. Des questions dans la salle. Allez-y, n'hésitez pas à lever la main et puis présentez-vous. Je crois que c'est tout au fond, il y a un monsieur là-bas. Voilà.
Oui, donc je voulais savoir, est-ce que c'est pas possible que, au lieu, enfin, que le problème vienne plutôt de nos mentalités? En d'autres termes, au lieu d'aller dans une logique de confrontation, que ce soit entre les villes ou dans l'individualisme dont on fait preuve aujourd'hui, on n'aille pas plutôt dans une logique d'association et concentrer tous, que ce soit entre les villes, comme par exemple on fait avec Nantes et Rennes, ou encore les associations à but non lucratif qui pourraient aider les gens dans la vie de tous les jours, en gros.
Est-ce que l'échange et la collaboration est la clé de notre futur? Luc, est-ce que tu as une réponse là-dessus? Je devine la réponse.
Oui, bien sûr, c'est certainement dans ce sens-là qu'il faut aller dans... Mais dans ce mouvement de ville en transition, c'est ça qui se passe. C'est comment peut-on créer des groupes solidaires qui interagissent l'un par rapport à l'autre et qui créent un réseau d'entraide qui peut fonctionner sur des systèmes dont ce qui prévaut le plus n'est pas simplement de gagner l'argent possible pour en faire... personne ne sait très bien quoi. Il y a une limite qui nous apporte réellement un confort et quelque chose dans l'idée de recréer des tissus de solidarité, aussi festifs, je veux dire. Je pense que c'est aussi important qu'on puisse avoir des réseaux qui nous permettent de passer du bon temps ensemble, de découvrir des choses, de retrouver une créativité. Tout ce qui nous manque maintenant et qui est dévoré par cette espèce de consommation compulsive qui fait qu'on nous pousse par tout le système, par la publicité, etc., à produire de plus en plus pour pouvoir consommer de plus en plus des choses qui sont complètement inutiles. Et la preuve que c'est inutile, c'est qu'il nous faut de la publicité pour nous convaincre d'acheter ce que nous n'avons pas besoin. Si on en avait réellement besoin, il ne faudrait pas de la publicité pour pouvoir nous convaincre qu'il faut absolument avoir les dernières choses qui sont sorties dans le commerce.
Donc oui, à la collaboration. Alors, je croyais que c'était les questions de la salle. Non, c'est la question de la salle. On me fait signe que le temps qui nous était imparti est terminé. J'aimerais juste vous entendre. Je suis désolé, hein, c'est un peu brutal, mais voilà, j'ai l'œil sur le chrono. J'aimerais vous donner la parole juste une minute pour conclure pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous vous y sentez bien dans l'imagination de la ville dans laquelle vous vivrez demain? Est-ce que, comment vous la voyez, cette ville, en une minute?
C'est à moi que vous parlez là?
Oui.
Allez-y, Pierre. Je ne la vois pas du tout. je voudrais juste revenir. Moi, ce qui m'importe, ce qu'a dit Luc tout à l'heure, c'est concernant l'autonomie alimentaire. C'est très effrayant ce que tu as dit. On n'en prend pas conscience. J'ai vu ça lorsqu'il y avait une grève de transport et que j'habitais en région parisienne et qu'on n'avait plus rien dans le supermarché. D'un seul coup, on n'avait plus rien à manger. Et je pense qu'il est très urgent d'instaurer des ceintures alimentaires.
Des circuits courts?
Très courts, le plus court possible.
Luc.
Oui, moi je vais proposer une réflexion qui vient pas de moi, mais de Francis Blanche. Francis Blanche disait « Mieux vaut penser le changement que changer le pansement ».
Ça, c'est pour l'ADEME. Eric, un mot de conclusion. Merci, Luc.
Peut-être pour poursuivre ce qui a été dit, hein, effectivement, je pense que si on s'est réunis et qu'on a choisi de vivre en ville historiquement, c'est parce que c'est mieux d'être ensemble que d'être tout seul. Donc, bien sûr, la ville est l'avenir. La mégalopole, peut-être pas, mais la ville est l'avenir.
Oui, il faut finir sur une note optimiste, mais je crois pas, Thierry, qu'on ait voulu être pessimiste sur la ville. En tout cas, moi, je crois que c'est l'endroit où on peut être bien, la ville. Hein. C'est l'endroit où on peut être bien, mais il nous appartient à nous d'être bien. Hein. C'est pas quelque chose qui va nous arriver tout cuit. Donc, il faut qu'on s'en occupe.
Patrick, le mot de la fin.
Moi, j'ai trop lu de science-fiction, donc en fait, les images de la ville du futur sont celles d'auteurs de science-fiction, entre autres celles de James Graham Ballard, qui a écrit une des plus belles nouvelles de science-fiction à mon avis, qui s'appelle L'Ultime Cité, où un personnage qui vit dans une communauté un peu post-68-hard, comme ça, à manger des fromages de chèvre, et il repart vers la ville qui a été abandonnée, et une dernière fois, avec beaucoup de nostalgie, il remet en route toutes les voitures.
Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous le mercredi 14 décembre à l'école d'archi pour la prochaine conférence du cycle de la ville de Nantes dédiée au développement durable. On parlera 100% énergie. Ce sera à 18h30 à l'école d'archi. Merci à tous et bonne soirée. Je crois qu'il y a d'autres tables rondes et d'autres conférences qui vous attendent.